Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous vous entendons d'ici, chers auditeurs, nous dire encore Jeanne d'Arc. Certes, Canal Académie n'a pas été avare sur le sujet, mais vous le savez peut-être et sûrement, la meilleure pédagogie est la répétition. Et pourtant, la répétition n'empêche pas certains de remettre en cause des vérités historiques reconnues depuis bien longtemps. Voici le contexte. À la fin de l'année 2007, un certain Marcel Guay, journaliste au quotidien L'Est Républicain, publiait un ouvrage intitulé « L'affaire Jeanne d'Arc ». L'œuvre remporta un succès certain. Quelques mois plus tard, la chaîne de télévision Arte diffusait un reportage au cours duquel l'auteur fut largement interviewé en situation favorable quand la caution universitaire, elle, était cantonnée à l'obscurité des bibliothèques. Au cours de ce reportage, la thèse de M. Guay fut largement retenue et exploitée quand celle des historiens devint déformée, pour ne pas dire totalement amputée. Pourtant, les propos de Marcel Guay ne sont guère innovants. On peut même dire qu'ils datent, comme la presque totalité des pamphlets anticléricaux du XIXe siècle. Dans la tradition des auteurs survivo-bâtardisants, comme on les appelle, le journaliste affirme que la sainte de Don Rémy n'est pas morte sur le bûcher mais dans son lit, qu'elle aurait été mariée au chevalier lorrain Robert des Armoises. Entre-temps, elle aurait été manipulée par la machiavélique Yolande d'Aragon, qui n'eut aucune difficulté à trouver cette jeune fille, puisque toujours d'après Guay, elle était ni plus ni moins que la fille d'Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans. Bâtarde, donc, de sang royal. Que répondre à cette remise en cause de l'histoire? Eh bien, nous recevons au micro de Canal Académie une historienne en colère, Colette Beaune. Colette Beaune, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Je vous avais reçu pour une émission sur Jeanne d'Arc à l'occasion de la sortie chez Perrin en 2004 de votre ouvrage consacré à Jeanne d'Arc, un admirable ouvrage que je conseille à nos auditeurs. Et vous venez de publier chez le même éditeur Jeanne d'Arc, vérités et légendes. Alors, les premiers mots, au fond, place tout de suite le cadre. Vous dites, il n'y a pas à l'origine de cet ouvrage de nécessité scientifique à proprement parler.
Quand j'avais fini d'écrire ma biographie sur Jeanne d'Arc, j'ai pensé que, à vrai dire, Jeanne d'Arc, pour moi, c'était terminé, que je n'écrirais plus sur Jeanne d'Arc, sauf peut-être un article ici ou là, quand les collègues le demandent. Mais franchement, je n'avais pas du tout l'intention de passer ma vie à faire du Jeanne d'Arc, en quelque sorte. Et c'est à cause du livre de Marcel Guay et à cause de cette émission télévisée que je me suis dit que c'était Jeanne d'Arc qui était en jeu, oui, bien sûr, puisqu'on ne voulait pas qu'elle soit ni une héroïne, ni une sainte, et on ne voulait pas qu'elle ait fait pratiquement rien du tout. Mais au-delà de Jeanne d'Arc, c'était simplement aussi le problème de savoir s'il y avait une histoire pour le vulgaire et puis une histoire pour les élites et pour les universitaires. Et je me suis sentie interpellée en tant qu'universitaire, en tant que personne qui écrit d'habitude des livres qui font 400 pages bourrées de notes. Et je me suis dit, après tout, tes livres, ceux qui les lisent sont des gens qui te ressemblent. Le grand public, qu'est-ce qu'il en sait? Pourquoi est-ce qu'on peut raconter au grand public à peu près n'importe quoi sur Jeanne d'Arc, sujet sensible pourtant dans notre vie politique, et puis avoir quand même du succès? Et puis des gens qui, de bonne foi, pensent qu'il est possible que Jeanne d'Arc soit une bâtarde royale, qu'il est possible qu'elle ne soit pas morte. Et là-dessus, il y a un journaliste qui me dit « Oh, mais quelle importance que cette Jeanne d'Arc ait eu quelques améliorations !» Il faut bien, pour le grand public, parler comme ça. Et moi, je ne crois pas ça.
Mais alors, justement, avant peut-être de venir sur la question, donc dans le détail du livre de Marcel Guay et du fait de reprendre, puisque vous ne faites que reprendre au fond les thèses qui existent. Alors, pour certaines, j'ai parlé du 19e, mais il y en a certaines qui proviennent du 17e siècle également. Nous y reviendrons. Je voudrais revenir quand même au métier même d'historien. Est-ce que vous n'opposez pas le vulgarisateur à l'universitaire, mais est-ce que l'universitaire peut dresser un pont vers le grand public malgré tout?
Je pense que l'universitaire peut parler pour ses collègues, il peut parler aussi pour ses étudiants, c'est même ce qu'il fait d'habitude, et il peut en fait parler aussi pour le grand public. C'est simplement un problème de choix des mots, de choix de la paracritique, un problème de raisonnement peut-être aussi, mais fondamentalement le raisonnement n'est pas très différent. Seulement, le problème, c'est que l'universitaire, il a un peu souvent des réticences à parler pour le grand public parce que la carrière universitaire est faite à partir de livres savants. Si vous voulez monter en grade, en quelque sorte, il faut publier des choses parfaitement savantes et parfois parfaitement ennuyeuses, mais qui font avancer la science, c'est vrai, mais que tout le monde ne peut pas lire. Seulement, après tout, pourquoi ne serions-nous pas nous-mêmes les meilleurs vulgarisateurs de ce que nous avons trouvé ?
Venons-en, si vous le voulez bien, Colette Beaune, au sujet en lui-même. Peut-être simplement, en quelques mots, rappeler, au fond, de manière générale, de manière vulgarisée dans le bon sens du terme, tout simplement le contexte. Nous sommes donc au début donc, du XVe siècle. Que se passe-t-il dans cette France du début du XVe siècle ?
Au début du XVe siècle, la France est très divisée puisqu'il y a une guerre civile entre les Armagnacs qui soutiennent le dauphin futur Charles VII et puis il y a les Bourguignons qui, au contraire, sont alliés des Anglais. C'est-à-dire que cette guerre civile a dégénéré progressivement en guerre étrangère et la France est donc partagée en trois parties. La Normandie, la France bourguignonne et puis la France du Dauphin. Jeanne d'Arc apparaît dans une période de perturbation et c'est aussi pour cela que vont se former deux images de Jeanne d'Arc opposées, une image bourguignonne qui est contre et une image armagnac qui est pour. Donc dès le début, si vous voulez, la mémoire de Jeanne d'Arc est une mémoire contestée, controversée, où on a raconté, je ne dirais pas tout et n'importe quoi, mais les Armagnacs l'ont présentée, c'est certain, quasi comme une sainte, et pour les Bourguignons, elle était manipulée, elle était sorcière, c'était une putain, enfin pour les Bourguignons, elle avait franchement tous les défauts.
Est-ce que le succès de Jeanne d'Arc, on sait qu'elle a été canonisée au début du siècle, a été béatifiée en 1920, est-ce que notre génération, nous sommes sortis de la génération du début du siècle, mais est-ce que ce 20e siècle et ce début du 21e siècle, est-ce qu'il est plus marqué par la question de Jeanne d'Arc que, par exemple, le contemporain de Louis XIV ou bien le contemporain de Louis XVIII ?
Je dirais que ceux qui ont été le plus marqués par la question de Jeanne d'Arc, c'est le 19e. Parce que c'est d'abord au 19e que, d'un côté, on publie, Quichera publie tous les documents pratiquement sur Jeanne d'Arc existants de son temps. C'est le moment où, d'un côté, l'histoire fait des progrès énormes. Mais de l'autre côté, se met en place aussi toute une mythologie autour de Jeanne d'Arc qui conteste implicitement les résultats de cette histoire. La grande époque Jeanne d'Arc, c'est le 19e. Pourquoi ? À cause de Michelet. Parce que c'est Michelet qui a inventé, en quelque sorte, que la nation France était née au moment de Jeanne d'Arc, parce que la France était femme, parce que la France était peuple. Et donc, il était logique de la faire naître au moment de Jeanne d'Arc. L'identité de la France, pour Michelet, c'est Jeanne d'Arc. Mais c'est une idée tout à fait géniale, en somme. Et c'est une idée qui va être inculquée par des centaines de manuels de la Troisième République, où la gloire de Jeanne d'Arc sera racontée à des petits paysans qui étaient comme elle, illettrés et patriotes. Enfin, patriotes, on l'espérait. On espérait qu'ils le deviendraient en écoutant justement cette histoire. Donc, la grande période de Jeanne d'Arc, c'est le 19e. C'est pas nous. C'est pas avant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Parce que vous présentez bien dans votre ouvrage le fait que finalement cette remise en question de la Sainte Jeanne d'Arc correspond à l'émergence de la raison tout au long du 19e siècle. Et pourtant, cette Troisième République qui tend à vouloir mettre en avant cette raison, eh bien, met parallèlement cette fibre patriotique, cette fibre parfois nationale, disons parfois aussi nationaliste, il n'y a pas un paradoxe là-dessous ?
Les problèmes rationalistes apparaissent pour Jeanne d'Arc, en fait, avant la Troisième République, dès la fin du XVIIIe, où ceux qui ne croient plus à l'Église, ne croient plus au roi, et ne croient plus, donc, du coup, probablement au saint ni au miracle, mettent en question Jeanne d'Arc. Les gens comme Voltaire sont très hostiles à Jeanne d'Arc, et Voltaire dit le principal travail qu'a fait Jeanne d'Arc, c'est d'avoir conservé son pucelage. Et il écrit sur la pucelle trois fois de suite un ouvrage qui s'appelle La Pucelle, qui est Absolument concernant, comme méconnaissance du phénomène, si vous voulez, prophétique. Bon, parce qu'elle est du côté de la monarchie, contre laquelle il lutte, parce qu'elle est du côté de l'Église. Il pense déjà qu'à l'époque des Lumières, il ne devrait plus y avoir de Jeanne d'Arc. Or, le 19e pense le contraire. C'est une réhabilitation de Jeanne d'Arc nationale, en partant sur d'autres bases que celles de Voltaire, évidemment.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'appropriation aussi de la part de la Troisième République ? Là, on sort un peu de votre sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de réappropriation de la Troisième République, du phénomène Jeanne d'Arc ? Puis, la Troisième République, on ne peut pas dire qu'elle soit cléricaliste ou cléricale tout court.
Non, Jeanne d'Arc est utilisée par tous les historiens de la Troisième République, à la fois les historiens catholiques qui, évidemment, insistent sur son côté monarchiste et sur les voies, sur l'obéissance au clerc et sur ce genre de phénomène, mais elle est utilisée aussi par les historiens républicains parce qu'elle est fille du peuple. En un sens, Jeanne d'Arc, c'est une héroïne républicaine et populaire. Et donc, au 19e, il y a aussi toujours plusieurs Jeanne d'Arc qui s'opposent ou se mélangent suivant les cas.
Alors, venons-en justement à cette fille du peuple, en quelque sorte. Et le mythe de la bergère fait d'elle une fille du peuple. Alors que la bergère, et nous en avions déjà parlé au cours de notre émission, eh bien, c'est un mythe.
Oui, Jeanne n'était pas bergère parce qu'elle le dit d'abord à plusieurs reprises et nous n'avons aucune raison d'en douter. C'était tout simplement une fille de paysan aisé. Alors pourquoi on dit qu'elle était bergère ? On a dit qu'elle était bergère pour des raisons symboliques, parce que la bergère garde le troupeau des Français en quelque sorte, contre le méchant loup anglais. Les bergers sont très souvent aussi prophètes. Dieu, dans l'Ancien Testament, va chercher tous les prophètes derrière leurs moutons. Et donc, symboliquement, il était intéressant que Jeanne soit bergère. Mais on ne l'a dit, en fait, que pendant quelques mois au printemps de 1429. Jeanne elle-même ne se présente pas comme ça. Elle dit, moi, je suis pucelle ou bien et prophétesse, mais pas bergère. Bergère, pour elle, c'était une identité un peu trop inactive, vous voyez passive.
Alors, elle est la fille de Jacques d'Arc et sa mère s'appelle Isabelle de Vouton. Et vous rappelez une chose qu'on rappelle et qu'on ne rappellera jamais assez, c'est que la particule ne fait pas la noblesse.
La particule ne fait pas la noblesse. Isabelle de Vouton était née à Vouton, à 2 ou 3 kilomètres de Domrémy, et Jacques d'Arc probablement né à Arc, encore qu'on en soit pas très sûr, parce que sa famille peut venir d'Arc antérieurement.
Alors ça, c'est une idée, le mythe de la petite bergère maintenant n'est même plus développé par ceux que vous appelez les mythographes, c'est-à-dire ceux, les tenants des thèses survivalistes et bâtardisants. Et justement, dans votre troisième chapitre, vous abordez la question « fille cachée de roi ». Au fond, que disent les mythographes et quelle réponse leur apportez-vous ?
« Fille cachée de roi », c'est une idée qui est apparue au début du 19e, c'est un sous-préfet de Bergerac qui s'appelait Pierre Caze et qui a inventé que Jeanne serait la fille cachée de la reine Isabeau, c'est la fille cachée de reine dans l'espèce de la reine Isabeau et du duc Louis d'Orléans. Pourquoi ? Parce qu'il voulait, il croyait plus trop en Dieu, il voulait substituer un merveilleux de conte de fées au merveilleux chrétien auquel il ne croyait pas. C'est un rationaliste, déjà, en quelque sorte, Pierre Caze. Et donc, ça lui a semblé une façon d'expliquer logiquement l'intervention importante de Jeanne dans la vie publique. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que l'intervention importante dans la vie publique était réservée à ceux qui étaient nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, quoi. Il ne croyait pas ni au fils du peuple, ni aux filles du peuple, Pierre Caze.
Je vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Colette Beaune, auteure du livre « Jeanne d'Arc, vérités et légendes » paru chez Perrin. Et nous redonnons la vérité historique face aux légendes et aux mythes qui sont développés un peu ici ou là. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans un instant.
Écoutez l'entretien sans phare avec l'écrivain Dominique Fernandez, élu à l'Académie française en mars 2007. Il raconte sa relation à son père, écrivain comme lui, évoque son parcours personnel et son œuvre de romancier et d'essayiste. Dominique Fernandez livre son sentiment d'avoir été longtemps un paria et raconte l'éblouissement ressenti face à un Pasolini dans La main de l'ange, livre qui lui valut le Goncourt en 1982 après le Médicis de 1974 pour Porporino ou Les Mystères de Naples. Cet entretien au micro d'Elisabeth Antebi est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Colette Beaune, historienne spécialiste de Jeanne d'Arc, auteure du livre « Jeanne d'Arc, vérités et légendes » paru chez Perrin, qui est une réponse, Colette Beaune, aux mythographes, c'est-à-dire ceux qui développent au fond des thèses sans les vérifier, notamment bon, la profession de journaliste, je suis bien placé pour le savoir, a ses lettres de noblesse, mais en l'occurrence là, elle avait ses limites. Alors, avant de laisser nos auditeurs, nous étions sur l'idée de fille cachée de roi, fille cachée d'Isabeau en fait, et donc non pas de roi, mais de reine, et il y a une confusion avec au fond la mort de Philippe. Alors, qui était Philippe et comment cette confusion s'opère-t-elle ?
En novembre 1407, la reine Isabeau de Bavière a un dernier enfant qui s'appelle Philippe, qui a dû vivre quelques heures ou quelques jours, nous ne savons pas exactement. Une naissance sur laquelle on est bien renseigné, d'un côté parce que les reines de France accouchent en public, et puis, seconde raison, le duc Louis d'Orléans est assassiné au retour d'une visite à la reine accouchée. Donc, tous les chroniqueurs qui ont parlé de l'assassinat de Louis d'Orléans ont parlé en même temps du petit Philippe. Cet enfant est mort, cet enfant était un garçon et cet enfant a été enterré. Seulement voilà, c'est un enfant dont les mythographes veulent faire une petite fille, ce qui pose quand même quelques problèmes, qui s'appellerait Jeanne. De plus, ce petit Philippe est né en 1407 et Jeanne est née en 1412, peut-être 1411, mais pas 1407. Et donc, il est assez invraisemblable de donner comme père à Jeanne d'Arc un homme, Louis d'Orléans, qui est mort en 1407, qui ne peut donc pas avoir une enfant en 11 ou 12.
Alors, je vais passer, si vous voulez, à ce qui, de mon point de vue, fait le cœur au fond de votre ouvrage, mais non pas de celui-ci, mais du précédent. Ce qui, en tous les cas, m'a le plus marqué, c'est la question de la spiritualité et du divin au Moyen-Âge, puisque vous présentez une Jeanne en son temps et on connaît mal, bon, on sait que les temps médiévaux étaient des temps de religion, mais le quotidien et notamment l'importance des prophétesses est bien là et vous le présentez de manière très, très précise donc dans votre ouvrage précédent. Et justement, les mythographes remettent à la fois en question du mandat divin et bien évidemment des voix. Quelle réponse leur apportez-vous ?
Je pense que Jeanne est une des très nombreuses prophétesses qui, entre 1350 et 1450, sont allées trouver le roi pour lui porter un message de Dieu. Jeanne n'est pas une exception, elle s'inscrit dans une série que les historiens ont étudiée. Et cette série comprend des gens qui ont à peu près tous le même profil, des gens soit très jeunes, soit très âgés, beaucoup de femmes, des ermites, des bergers, des gens qui sont à la marge et qui viennent presque tous, de plus, des périphéries du royaume. Autrement dit, c'est parce que l'on pense que lorsque les autorités officielles ont échoué, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire le roi et ses armées, et en 1429, on peut dire qu'elles ont échoué, qu'elles ont de très très gros problèmes, eh bien Dieu va se charger d'envoyer quelqu'un pour sauver le royaume de France, comme autrefois il a envoyé le Christ pour sauver l'humanité, si vous voulez. Et donc, le prophétisme, c'est un phénomène de crise. Ça apparaît en 1350 parce que c'est la Grande Peste, parce que c'est les défaites de Poitiers contre l'Angleterre. Et ça va durer jusqu'en 1450 et ça disparaît à la mort de Charles VII avec la réapparition d'une démographie abondante et d'une économie prospère. Autrement dit, quand tout va bien, on fait confiance aux autorités. Quand cela ne va plus du tout, on cherche aux marges quelqu'un qui pourra résoudre la crise. Le prophétisme, c'est pas spécifiquement médiéval. En un sens, si vous voulez, on peut dire, je crois que je l'ai déjà dit, que l'élection de Barack Obama aux États-Unis est un phénomène en partie de prophétisme. Au cas où les autorités ont échoué, on va chercher plus loin, on va chercher quelqu'un qui vient d'ailleurs, on va chercher quelqu'un qui est noir, dont le corps est marqué, comme le corps de Jeanne était marqué. Enfin, tout quelque chose de comparable.
Mais alors, dans la critique, si vous voulez, du mandat divin, il y a le divin, mais sur Terre, il y a l'Église. Et l'Église, vous le présentez très bien à propos du livre de Poitiers, hein, c'est cela, que l'Église cache. L'Église cache quelque chose. Alors, qu'est-ce que ce livre de Poitiers et qu'est-ce que cacherait l'Église qui... Je mets ça au conditionnel oui. parce que c'est tellement stupide que...
Alors, le livre de Poitiers et l'armoire de fer du Vatican,
voilà.
ça fait partie des mythes très classiques des mythographes. Alors, le livre de Poitiers, c'est un livre qui serait le compte-rendu des entretiens que Jeanne a eus à Poitiers avec les conseillers du roi, laïcs et ecclésiastiques, chargés de l'examiner pour voir si elle n'était pas folle, si on pouvait lui faire confiance. Toute prophétesse est quand même examinée en fonction de critères précis. Est-elle pieuse? Est-elle vierge? Sa prophétie est-elle cohérente avec celles qui ont été faites avant elle? Dit-elle toujours la même chose ou change-t-elle d'avis souvent? Enfin bon, il y a toute une série de critères qui ont été mis au point par Pierre d'Ailly à la fin du XIVe. Donc, elle a été interrogée à Poitiers, ça nous en sommes sûrs. La commission de Poitiers a rendu un verdict que nous possédons, qui fait une page en gros, assez court. Alors, y a-t-il eu autre chose qu'un verdict? Autrement dit, les notaires avaient-ils, à chaque fois que Jeanne disait quelque chose, pris des notes et ont-ils mis en forme ces interrogatoires de Poitiers? À vrai dire, on n'en est pas très sûr. D'abord parce que, au moment du procès en nullité, le livre de Poitiers ne réapparaît pas. Or, les avocats de Charles VII avaient toutes les raisons de l'avoir. Ils n'avaient franchement aucune difficulté, eux, à se procurer. Que les juges de Rouen n'aient pas pu l'avoir, ça c'est vrai. Et puis, c'est Jeanne qui parle du livre de Poitiers. Personne d'autre qu'elle n'en parle. Hein. Et pour elle, un livre, c'est n'importe quoi. Je veux dire, une feuille comme celle que vous avez là, c'est un livre. Deux feuilles, c'est un livre. Et une Bible, c'est un livre. Autrement dit, tout texte écrit est un livre. Donc le livre de Poitiers, ça pourrait, à la limite, être seulement le compte-rendu final, celui que nous avons. Mais la légende veut qu'il y ait eu, ça serait tellement plus intéressant, un livre de Poitiers, donc disparu en fait en 1450, mais qu'il existe encore quelque part et où? Bien caché, évidemment, dans les armoires de fer du Vatican. Alors pourquoi bien caché? Parce qu'à Poitiers, pensent les mythographes, Jeanne aurait dit qu'elle était la bâtarde d'Isabeau et de Louis d'Orléans. Donc la preuve de cette naissance illégitime serait cachée dans le livre de Poitiers. Et donc c'est pour cette raison que l'Église cache le livre de Poitiers. Et c'est pour cette raison qu'elle ne veut pas en distribuer de photocopie, même quand on écrit à la Vatican en disant « Je veux une photocopie du livre de Poitiers ». Seulement ce livre de Poitiers, personne de sérieux ne l'a vu. Mais en 1450, il n'existait déjà plus.
Alors,
et on n'est même pas sûr qu'il ait jamais existé. Donc,
alors,
voilà.
Je retiens vos derniers mots. On n'est même pas sûr. Et c'est la différence entre, au fond, l'historien et le mythographe. L'historien n'est pas sûr, donc il ne veut pas en tirer de conclusion hâtive. Tandis que le mythographe, lui, il va tirer une conclusion hâtive. C'est bien cela?
Oui. L'historien ne tient pas compte du livre de Poitiers dans la mesure où la seule chose qu'il sache, c'est que Jeanne dit à ses juges, quand elle ne veut pas répondre, allez donc voir le livre de Poitiers. Mais ça veut dire, c'est aussi un moyen d'éviter de répondre, ça veut dire d'autres clercs m'ont déjà interrogé sur ce sujet, et donc c'est pas la peine que je vous réponde à vous. C'est un moyen de se défiler aussi, parce qu'elle se défile habilement souvent.
Alors je reste sur le divin, il y a la question des voix, et là c'est très intéressant et très révélateur. Vraie voix ou supercherie, c'est le... Et alors là, on a...
Des choses extraordinaires.
On a des choses extraordinaires. En lisant votre ouvrage, donc je note dans la marge éclat de rire, parce qu'on a vraiment du n'importe quoi. La thèse, j'allais dire, la plus sobre, c'est celle de Besson, de Luc Besson, donc du film, au fond, qui incarne les voix de Jeanne par la conscience qui est incarnée, justement, par Dustin Hoffman.
Oui, alors le problème des voix, c'est tout simple. Les historiens catholiques, pendant longtemps, n'ont eu aucune peine avec les voix. Il est bien évident que si Dieu existe, il peut parler à ses élus. C'est le principe. Ça s'est mis à poser problème que pour les historiens laïcs. Alors, la plupart des historiens laïcs, Michelet et puis bien d'autres, disent ce sont les voix de sa conscience. En somme, c'est ce que Luc Besson reprend sous une forme autre, mais c'est la même idée. Ce sont les voix de sa conscience. Et puis, est-ce une supercherie? Ah, il y a aussi autre chose. Peut-être n'est-elle pas tout à fait normale, car il y a aussi l'explication médicale aux voix. Et alors là, on
les
a cherché...
Les
psychanalystes se sont penchés sur le problème, les spécialistes de psychiatrie aussi. Elle aurait été empoisonnée par une vache folle. Elle aurait des visions suscitées par la schizophrénie. Enfin, il y a toutes sortes de diagnostics absolument extraordinaires dedans.
Hallucination unilatérale droite fréquente dans l'hystérie.
Ah oui, j'ai recopié. Hein.
Schizophrénie, tout ça s'est constaté à la fin du 19e siècle.
Oui, où la schizophrénie est une maladie féminine qui plus est.
Voilà. Oui, donc les voix.
Donc, les voix étaient soit un phénomène médical, soit effectivement un phénomène de supercherie. Mais supercherie, ça pose toujours le problème. Supercherie de qui ? Autrement dit, qui joue les voix ? Et là, c'est extrêmement compliqué parce que qui joue les voix ? Les voix apparaissent à Don Rémy. Il faut donc qu'il y ait des gens qui aient joué les voix à Don Rémy. Ensuite, des gens qui ont joué les voix, est-ce les mêmes, durant toute l'aventure de Jeanne d'Arc, puis des gens qui jouent les voix dans le château d'Orban. Où là, on peut imaginer éventuellement que les murs sont bourrés de trous, qu'ils ont des yeux, et que des délégués des Anglais lui soufflent des réponses. D'un autre côté, c'est supposé que Jeanne d'Arc est bien sotte, parce qu'elle ne distinguerait pas une voix humaine de la voix de Dieu. Elle ne saurait pas qu'à Rouen, les Anglais veulent la faire mourir. En fait, ça fait longtemps qu'elle s'en doute un peu, quand même.
Ce qui compte, c'est que Jeanne et ses contemporains y ont cru. Les voix sont un fait historique incontestable. Oui. Qu'elles aient existé ou non, elles ont fonctionné comme oui. Du vrai. C'est peut-être là où est le miracle.
Oui, je crois que ce n'est pas une question qu'il faut se poser. Ce n'est pas une question d'ordre historique, si vous voulez. Ouais. Historiquement, nous constatons qu'elles ont fonctionné comme du vrai.
Alors, autour de l'église, autour de cette fameuse armoire de fer, et puis des affabulations, il y en a une qui fonctionne toujours, au fond, dans les médias. On le voit notamment à travers le 11 septembre. Vous preniez Barack Obama tout à l'heure. C'est la question du complot. C'est une question que nous allons voir après cette deuxième pause.
Le photographe Yann Arthus Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts se livre au micro de Canal Academy. Retrouvez-le dans notre émission En habit vert. Il évoque son parcours et les projets de son association Good Planet au service de la défense de l'environnement. Téléchargez également sur notre site l'installation de Yann Arthus Bertrand sous la coupole et découvrez en fin d'émission les détails de son épée originale. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Colette Beaune, historienne, auteure aux éditions Perrin du livre Jeanne d'Arc, Vérités et Légendes, qui est une réponse donc aux thèses des mythographes, comme vous les appelez, Colette Beaune, c'est-à-dire les tenants de la thèse survivo-bâtardisante qui disent en fait que Jeanne d'Arc n'est pas morte sur le bûcher ou bien a été fille de reine. Alors, il y a également une idée qui est développée, d'ailleurs elle est développée dans le film de Besson, insidieusement développée dans le film de Luc Besson, où on voit Yolande dite d'Aragon qui joue en fait, qui a un rôle quasiment de manipulatrice. Donc il y aurait à la fois manipulation et pourquoi pas complot de l'Église pour pouvoir agir dans le sens qu'elle souhaite voir. Quelle réponse apportez-vous et à la fois à la théorie de la manipulation et à la fois à la théorie du complot ?
Pour ce qui est de la manipulation, les contemporains de Jeanne d'Arc ont cru, pour quelques-uns seulement, à une manipulation locale organisée par Robert de Baudricourt. Autrement dit, le châtelain de Vaucouleurs, pour se mettre en valeur, envoie à Chinon une prophétesse qu'il a repérée et il espère que ce sera bon pour sa carrière future. Mais c'est tout, donc une toute petite manipulation individuelle, si vous voulez. L'idée que Yolande d'Aragon aurait un rôle dans l'histoire de Jeanne d'Arc n'apparaît qu'à la fin du 19e. Yolande d'Aragon est la belle-mère du roi, il est certain qu'elle soutient sa fille Marie d'Anjou, mais il est certain qu'elle a une action politique, il est certain qu'il y a toute une série de conseillers angevins autour de Charles VII, comme il y a aussi des conseillers armagnacs et puis toute une série d'autres sectes, si vous voulez, enfin d'autres groupes de pouvoir. Pourquoi favoriser Yolande plutôt que les armagnacs, par exemple ? Jeanne elle-même s'est dite Armagnac. Elle a été reçue et elle a été aidée, où nous en sommes très certains, par les Armagnacs. Ce sont eux qui l'ont vigoureusement conseillée. Alors pourquoi chercher ailleurs et chercher Yolande d'Aragon, alors que nous sommes à peu près sûrs que c'est Yolande d'Aragon qui a plus ou moins dirigé les Anglais vers le siège d'Orléans et que son fils René d'Anjou venait de prêter hommage à Jean-Duc de Bedford, donc il était côté anglais à cette époque, et qu'il ne va repasser côté Charles VII que fin juillet, début août 1429. Donc au moment où Jeanne d'Arc apparaît, Yolande d'Aragon n'est pas dans ce camp-là. Donc pourquoi elle ? Le complot, c'est relativement une idée récente. Et les mythographes cherchent à impliquer là-dedans l'ordre franciscain. Pour une raison très simple, alors, c'est que...
L'ordre franciscain est au mythographe dans l'affaire Jeanne d'Arc, ce que l'Opus Dei est dans le Da Vinci Code.
Absolument. On aurait pu trouver des jésuites ou l'Opus Dei, mais ça n'existait pas encore à l'époque de Jeanne d'Arc, donc il a fallu se rabattre sur nos pauvres franciscains. Bon, il est certain que Jeanne a subi une très forte influence franciscaine. Elle a écouté des sermons franciscains, elle utilise les mots Jésus-Maria, elle fait des réponses comme « Moi, je ne suis qu'une pauvre fille », qui sont très franchement franciscaines. Et il est très certain qu'elle est influencée par les franciscains, comme, je ne sais pas, moi, 40% de la population française. À cette époque, ça ne lui est pas propre, mais il est très certain qu'elle l'est. Et puis, les franciscains, comme beaucoup d'ordres religieux, sont présents un petit peu partout. Les couvents franciscains sont beaucoup plus nombreux que les couvents dominicains en France. Donc, chacun a un franciscain à côté de chez soi. Donc, ça fait un réseau franciscain. Ça existe bien, les réseaux franciscains. Le seul problème, c'est que ça sert à développer certains cultes proprement franciscains et certaines formes de prière. Pourquoi les franciscains auraient-ils eu une idée politique ? Les franciscains anglais soutenaient Jean de Bedford. Les franciscains du sud de la France ont soutenu Charles VII, oui. Parce que, tout simplement, les franciscains sont toujours liés au prince qui protège leur couvent. Et voilà, seulement il n'y a pas de complot franciscain pensable, si vous voulez.
Alors peut-être plus, plus sérieusement, il y a aussi le rôle de Jeanne. Au fond, il y a ceux qui, les théologiens, vous dites, des années 1900, qui disent Jeanne a tout fait, elle a libéré la France complètement, c'est elle. Et à l'opposé, on a les mythographes, certains mythographes qui disent Jeanne n'a rien fait. Et c'est une vraie question, c'est un véritable problème historique que d'apprécier le poids dans l'histoire de Jeanne, à la fois de la prise d'Orléans, mais aussi à la fois, bien évidemment, du sacre. Comment appréciez-vous, vous, ce rôle ?
L'histoire de Jeanne d'Arc, sa vie publique, ça n'a duré qu'un an, plus l'année de procès et de prison. Donc c'est quelque chose de très court, c'est vrai, dans l'histoire politique de la France. Seulement, ce qu'elle a fait a eu une importance symbolique très très grande. Libérer Orléans, déjà, c'était libérer la capitale du duc Charles qui était prisonnier en Angleterre. C'était sauver la mise du parti Armagnac aussi, clairement. Et peut-être sauver aussi le sort du royaume de Bourges qui aurait été en mauvais point si les ponts de la Loire avaient pu être franchis par les Anglais. Donc, sauver Orléans, c'était déjà important. Oui, disent les mythographes, mais peut-être que la ville d'Orléans y serait arrivée toute seule. Oui, bien sûr. Il a d'abord fallu qu'Orléans résiste pendant 8 mois pour être sauvé en 8 jours. C'est certain que les bourgeois d'Orléans y ont participé. Il est certain aussi que le roi a envoyé une armée et que Jeanne n'est pas arrivée toute seule sous les murs d'Orléans. Et donc, la victoire est un phénomène collectif où Jeanne compte pour donner du courage, dire que Dieu est du côté des Orléanais et que donc la ville va être sauvée parce que Dieu le veut. Pour ça, oui. Et puis ensuite, surtout, l'importance de Jeanne, c'est le problème du sacre. Le roi Charles était roi depuis 7 ans et il n'avait pas été sacré parce que la Sainte-Ampoule se trouvait à Reims, en terre anglaise. Et il était roi. Les juristes de son entourage trouvaient qu'il était roi. Les juristes pensaient, et beaucoup de théologiens le pensaient aussi déjà, que c'est le sang qui fait le roi. Autrement dit, le roi est automatiquement roi à la mort de son père, il n'a pas besoin d'être sacré. Mais pour le peuple, pour les gens comme Jeanne d'Arc, ce n'était pas ça. Jeanne d'Arc a appelé Charles VII le dauphin jusqu'à Reims. Il l'était seul pour elle, la désignation par Dieu avait de la valeur. Et là, elle a compris quelque chose qui politiquement était décisif. Une fois qu'il a été sacré, le roi Charles a été considéré comme roi par tout le monde. Ensuite, on n'était pas forcément d'accord avec lui, mais il était le roi.
Mais a-t-on besoin de la Sainte Ampoule pour faire le sacre ?
Absolument.
Le sacre, comme son nom l'indique, c'est un sacrement, c'est une sorte de huitième sacrement. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une huile sainte bénie, simple ? Parce que dans, là encore, pardonnez-moi mes références, mais Luc Besson nous présente une Yolande d'Aragon remplissant une petite fiole de parfum pour simuler. Il y a une double erreur à la fois ce que vous me dites, à savoir qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire un sacre sans la bonne huile. Et puis la deuxième erreur, c'est qu'il fait utiliser par la reine une ampoule qui, visiblement, est en territoire anglais. Comment s'est passée la chose donc ?
Ben en fait, la Sainte Ampoule était à Saint-Rémy de Reims parce qu'elle est conservée là depuis fort longtemps et que depuis, en tout cas, le début 11e, les rois ont l'habitude de toujours aller à Reims pour leur sacre. Avant, on a pu sacrer ailleurs. Hein. Mmh. À partir du 11e, on sacre toujours à Reims, donc toujours avec la même Sainte Ampoule, ce qui fait du roi le successeur de Clovis. Le 51e roi était Charles VII, après Clovis. Et cette Sainte Ampoule étant venue du ciel, on pense aussi que c'est elle qui donne au roi de France le pouvoir de faire des miracles et de guérir les écrouelles. Et n'importe quelle huile pourrait pas coller, puisqu'il faut qu'il s'agisse de cette huile bénie et venue du ciel. C'est un problème très important. C'est même un problème pour les rois d'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, la légitimité du roi ne dépend beaucoup moins du sacre qu'en France. Mais les rois d'Angleterre, justement, à la fin du XIVe, ont senti que cette sainte ampoule des rois de France était un handicap pour eux. Et c'est à ce moment-là où on voit apparaître l'huile sainte de Thomas Becket que la Vierge, cette fois, aurait donnée à Thomas Becket pour qu'elle soit conservée et qui aurait été miraculeusement retrouvée. Vous voyez, il y a partout ce souci de désignation directe du ciel.
Alors, il y a une dernière thèse dont je voudrais parler. C'est une thèse qui a été notamment développée. Hein. Le magazine Géo a fait un hors-série que vous avez dû voir, qui a laissé la place de 4 ou 5 pages à Marcel Guay, donc qui a pu présenter, sans même être interviewé, ses thèses. Et dans ce hors-série de Géo, La France de Jeanne, eh bien, il y a une représentation d'une certaine dame des armoises et que l'on dit, au fond, être Jeanne, donc Claude qui serait Jeanne. Et vous y accordez dans votre ouvrage plusieurs chapitres, et c'est au fond la thèse principale de ce que l'on appelle les survivalistes, qui, à partir de 1890, donc, disent que Jeanne n'est pas morte sur le bûcher. Alors, que répondez-vous à cette thèse qu'elle n'est pas morte sur le bûcher? Et puis surtout aussi, que répondez-vous à ces personnes qui disent « Nous l'avons retrouvée, Jeanne, c'est cette Claude des Armoises ».
Alors, Jeanne est morte sur le bûcher de Rouen, d'abord parce que les Anglais n'auraient pas pu admettre qu'il n'en soit pas ainsi. Ils l'avaient payé très cher, ils avaient fait faire un procès très long par des juges français. Il fallait que Jeanne meure pour qu'il soit enfin à nouveau victorieux. Et pour supposer qu'elle ait pu ne pas mourir, il faut qu'il y ait une substitution faite le matin du bûcher. Alors, substitution, il fallait trouver quelqu'un pour mourir à sa place. Ce n'est pas vraiment vraisemblable. Il aurait fallu trouver à Rouen une sorcière en stock, en quelque sorte, dans les prisons d'officialité, qu'on pût brûler à la place de Jeanne. D'abord, il n'y avait pas de sorcière en stock dans les prisons d'officialité, parce qu'au Moyen-Âge, on condamne rarement à mort, mais on exécute tout de suite. La sorcière en stock, c'est une idée 19e. Et par ailleurs, ceux qui ont vu Jeanne mourir la connaissaient. Ils n'auraient pas pu la prendre pour quelqu'un d'autre.
Et donc, Claude, cette fameuse Claude des Armoises.
C'est quelqu'un qui apparaît en 1436 dans la région de Metz, qui se présente comme étant Jeanne d'Arc ressuscitée ou échappée. On ne lui a pas posé trop de questions. Donc, on ne sait pas si elle se présentait comme ressuscitée des morts ou bien comme échappée des prisons anglaises. Et quelqu'un qui a des capacités pour combattre et qui est, comme Jeanne d'Arc elle-même, petite, brune et sportive et probablement née en Lorraine. Seulement, le problème, c'est que Claude des Armoises, c'est un imposteur. À l'époque médiévale, l'imposture est très facile. Personne ne se promène avec ses papiers. D'abord, on ne nous les demande jamais. Il suffit d'être reconnu par quelqu'un pour être identifié. Alors, les frères de Jeanne d'Arc l'ont reconnu. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Est-ce que ses frères étaient ses frères? Ça, nous n'en savons rien. Ou bien, autre question, ils l'ont reconnu de bonne foi. Ou ils l'ont reconnu parce qu'ils y avaient intérêt. Parce que depuis que Jeanne d'Arc était morte, ils n'avaient plus ni argent ni honneur. Et l'un d'entre eux avait été fait prisonnier deux fois et avait dû payer de lourdes rançons. Les fonds étaient bas, si je puis dire. Et ils avaient donc tout intérêt à produire une nouvelle sœur.
Donc cette fameuse Claude des Armoises, vous présentez les choses de manière succincte, hein, on renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, mais très précisément, vous suivez ce personnage, et vous, d'ailleurs, vous les mettez chacune en parallèle dans leur parcours, parce qu'elles ont objectivement
un
parcours semblable.
Oui. Ce sont des filles qui sont parties de chez elles très tôt, qui ont rompu avec leur famille, qui ont gagné leur vie en faisant la guerre. Dans un premier temps, Claude des Armoises a plus ou moins prétendu être prophétesse. Elle savait faire des tours de magie. Elle prétendait plus ou moins prédire l'avenir. Et puis, elle a abandonné rapidement et sagement ce côté-là. Et on voit très bien que Claude des Armoises essaye, est fasciné par Jeanne d'Arc, vraiment. Nous pensons, en fait, enfin, je pense, que c'est une mythomane. Quelqu'un qui croit, au bout d'un certain temps, sincèrement, être Jeanne. Et puis quelqu'un qui a intérêt aussi à se présenter comme Jeanne. Les bourgeois d'Orléans lui ont quand même donné 210 livres. Le comte de Vernembourg lui a donné une belle cuirasse. Le roi, s'il l'avait reconnu, mais il n'est pas allé jusque-là, aurait probablement aussi été généreux. Et puis, elle n'arrive pas, évidemment, à se faire reconnaître. Hein. Le roi n'y croit pas, le Parlement la condamne. Et puis, entre-temps, on la retrouve au service de Gilles de Rais, rampant dans des affaires louches du côté des meurtres d'enfants perpétrés par Gilles. Donc, une aventurière dont nous connaissons la vie en pointillé. C'est pour ça que les historiens, contrairement aux mythographes, sont très gênés avec Claude des Armoises. Parce que Claude des Armoises apparaît en pleine humeur pendant 6 mois, disparaît pendant 8 ou 9 mois, réapparaît ailleurs, parfois sous un autre nom. Avant de redisparaître, on la connaît ainsi jusqu'en 1457. Sous plusieurs identités différentes.
Alors Colette Beaune, nous arrivons au terme de cette émission. Je renvoie encore une fois nos auditeurs à votre ouvrage dans lequel vous abordez bien d'autres questions, notamment la question des reliques. On sait combien les reliques sont importantes et on a retrouvé soi-disant des reliques alors qu'elles étaient plus des reliques de momies, c'est-à-dire datant de bien plus longtemps que des reliques de Jeanne. J'aurais simplement peut-être un dernier mot au fond sur ces mythographes. Est-ce qu'il y a au fond de l'idéologie derrière tout cela, parce que vous dites les thèses bâtardisantes et survivalistes qui restent seules aux mains des mythographes sont nées au 19e et en reflètent les valeurs, à savoir la raison, la laïcité, mais aussi les préjugés. C'est-à-dire que qui dit préjugé dit au fond une vision très courte des choses, comment une femme, au temps médiéval, jeune, et en plus pauvre, pourrait faire quelque chose.
Oui, je pense que non.
C'est l'idéologie.
C'est de l'idéologie, c'est croire que les filles du peuple sont bonnes à rien, comme franchement, on le croyait, beaucoup de gens le croyaient au 19e siècle. Hein.
Alors que le Moyen-Âge a montré que...
Le Moyen-Âge pensait au contraire à l'élection des enfants ou des filles du peuple, qui étaient les préférées de Dieu.
Nous n'avons pas parlé de l'enfance, alors que l'enfance est très importante au Moyen-Âge.
Oui, mais Jeanne a toujours été entourée d'enfants. Ses contemporains pensaient que la voix de Dieu sortait par la bouche des enfants, ce qu'on dit encore aujourd'hui parfois. Et la jeunesse de Jeanne a été, de son temps, un atout. Il ne faut pas chercher à vieillir Jeanne.
Eh bien, je vous remercie. Je voudrais terminer effectivement cette émission sur cette jeunesse. Je renvoie nos auditeurs donc à votre ouvrage, Jeanne d'Arc, Vérités et légendes, un ouvrage paru chez Perrin et un de vos collaborateurs, en tous les cas un de vos confrères, Olivier Bouzy, chez CLD Éditions. CLD Éditions a également écrit un ouvrage sur le même thème, Jeanne d'Arc, l'histoire à l'endroit. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.